Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast de la rentrée qui transpire le catch. Ça y est, nous sommes en septembre 2020, nous avons survécu à cet été incroyable et nous sommes toujours là puisque la WWE est toujours là. Je suis Raphaël et je suis avec celui qui sera toujours là, celui qui parle trop, le You Talk Too Much, chroniqueur de la bande, Tonton Chris. Comment vas-tu, Tonton? Ça va?
Salut Raphaël, yeah. Salut peuple de catch-up. Eh ben écoute, ça va plutôt pas trop mal pour reviewer avec toi ce 1423e Raw.
Oh ben oui, j'en avais perdu le compte, vois-tu. La rentrée se passe bien de ton côté?
Eh ben écoute, hein, voilà, c'est parti. On sort le petit cartable, on sort tout ce qu'il faut, son petit goûter, hein, bien évidemment, hein, et puis son voilà. Slip.
Eh ben voilà, exactement. Tout est prêt pour que la WWE nous lance une nouvelle saison. Puisqu'à une époque, ils appelaient ça le season premiere, celui de le premier de septembre. Bon, en même temps, on est encore le 31 août, hein, au moment où nous faisons ce show à la WWE.
Oui, on peut considérer ça, ouais.
Nous sommes donc à Monday Night Raw. Nous sommes toujours au Thunderdome, à la Thunderdome. Alors moi, je croyais que c'était juste pour la SummerSlam Week, mais en fait, on y reste, a priori, hein, pour un moment. Je sais pas si...
Ah, j'ai la sensation que oui, on y reste hein, pour un moment. Hein. Effectivement, il y a des rumeurs parce que la IW, par exemple, a repris des shows en public.
Ouais.
Il y a de plus en plus de prémices en indie, etc. Voilà, au Japon aussi, on a relancé les matchs. Vraiment, voilà. Alors, on utilise des stades de baseball. Il s'avère que les États-Unis sont équipés de stades de baseball.
Donc, oui, pareil. Oui.
S'ils prennent exemple sur la IW ou sur les fédés japonaises, effectivement, peut-être qu'à terme, ils vont quitter le Thunderdome. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité.
Pour l'instant, on y est toujours. Et donc, alors, on n'a même pas commencé, dis donc, Tonton Chris, qu'on nous promet un programme énorme pour ce Raw post-payback. Hein, donc, tout simplement, on prépare le prochain pay-per-view dans un mois, Clash of Champions. On nous annonce trois matchs ce soir, trois single matchs, dont les gagnants se retrouveront plus tard dans la soirée pour un triple threat pour la place de first contender au titre de champion WWE de Drew McIntyre. Si lui-même se sera remis de ses mésaventures crâniennes suite aux attaques de Randy Orton. Donc, on n'a même pas démarré que déjà, on nous dit « Ouais, ce soir, vous allez voir Keith Lee contre Dolph Ziggler, Kevin Owens contre Randy Orton et Dominic Mysterio, qui remplace son papa blessé pour affronter Seth Rollins. » Alors déjà, est-ce que tu as soulevé les sourcils? Ça t'a un peu étonné, tout ça? Sachant que donc les trois gagnants se réaffrontent après dans la soirée.
Ouais, alors j'avais lu le lendemain... Ouais, le lendemain payback, en fait, j'avais lu l'histoire de la blessure de Rey Mysterio, quoi, qui a l'air de, apparemment de ne pas être un work, qui a l'air d'être une vraie blessure. Donc, c'est ça qui a un peu précipité Dominique, quoi. Mais effectivement, comme tu dis, balancer dès le début du show, tout ça, quoi, avec quasiment toutes les stipulations et tout ça, c'était. Voilà, on se dit sur le coup, oulala, gros, là, il va y avoir un gros contenu. Et il y a des gros matchs, finalement, quand tu regardes l'affiche, tu te dis, ouais, il y a de quoi tenir trois gros matchs, là.
Ah ouais, puis même un quatrième après, moi je me suis dit, mais on aurait fait un pay-per-view ce redimanche là, pourquoi il faut se dépêcher?
Bah c'est vrai que c'était cool d'annoncer ce triple menace là en main event, c'était plutôt, sur l'instant ça m'a paru un truc sympa.
Ouais, sur l'instant on avait un programme chargé, et on a de suite démarré par Randy Orton qui est arrivé au micro. Randy Orton, il nous parle de ses agissements sur le champion justement. En fait, ce qui lui a pas plu, c'est que Drew McIntyre lui ait accepté un rematch par pitié. Ça, Randy Orton, il veut de la pitié de personne. Du coup, il lui a donné la seule chose que mérite Drew à ses yeux, c'est une fracture de la mâchoire. Voilà. Bon, derrière tout ça, Randy nous dit que lui devrait avoir le title shot direct. Hein. Il a besoin de rien pour le mériter, mais quand même, il dit OK, je vais jouer le jeu, je vais jouer les règles, je vais battre tout le monde. Il nous joue son petit John Cena là, en nous envoyant un montage photo de toutes ses victimes qui sont ensemble dans une chambre d'hôpital, alors avec Edge, Big Show, Flair, Drew McIntyre, tout ça c'est très drôle, MDR. Mais il est interrompu par Keith Lee, Bask in His Glory, qui débarque, la nouvelle fusée de la WWE. Keith Lee qui dit « Bah écoute, t'as l'air bien fier de toi là d'avoir envoyé tout le monde à l'hôpital, mais c'est un peu pour oublier que... T'as pris ta session hier soir, t'as pris bien cher. » Et lui, Keith Lee, il trouve que c'est justement d'avoir battu les Giant Killer qui mériterait un title shot. Mais il n'a pas vraiment le temps de finir sa promo parce qu'il est attaqué par derrière par Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, le revoici, on ne l'avait pas vu à Raw depuis un petit moment. Hein. Ces derniers temps, il se perdait un peu dans le sous-sol de Raw, sur le parking, dans le Raw Underground. Mais il a bien un match contre Keifley. Donc le match enchaîne, hein, c'est l'opener de la soirée. Dolph Ziggler très vite va voler un peu dans tous les sens. On reconnaît là son excellent sens du selling, hein, toujours impeccable Dolph. Mais il va finir par avoir Keifley un petit peu au sol avec des sleeper holds et ce genre de choses. Mais bon, la force de Keifley est quand même difficilement maîtrisable pour Dolph Ziggler. Il vole à nouveau un petit peu partout le Dolph. Il arrive à passer une petite fourberie, hein, dans le dos de l'arbitre. Il arrive à, alors que Keifley le porte sur son dos, il arrive à mettre les doigts dans les yeux, dans le nez de Keifley. Enfin bref, à un petit peu l'aveugler. Il place son famosor, il va même placer son zigzag. Mais ça fera juste un near fall et il encaisse dans la foulée le Spirit Bomb, le finisher dont vous allez devoir vous habituer. Keifley remporte donc l'opener et sera en main event pour affronter les deux autres gagnants des grosses affiches de la soirée. Voilà un segment qui continue. Hein. On reprend toutes les feux de, on reprend le titre universel, enfin le titre mondial pardon en jeu derrière tout ça et puis. Keifley fait sensation. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce segment, tonton Chris?
Ouais, Keifley fait sensation, effectivement, là, depuis son arrivée de la semaine dernière.
Ouais, et, déjà.
Donc, effectivement, voilà, j'ai plus trop trouvé pas trop mal la promo d'Orton. À vrai dire, de toute façon, je crois que je préfère Orton au micro que dans le ring. Mais et pour le coup, j'ai trouvé sympa sa menace à Drew McIntyre en lui disant que tout ce qu'il méritait, c'était de finir sa vie dans un lit d'hôpital à manger avec une paille. Je crois que c'était bien senti, c'était mignon. Voilà, et puis effectivement, après toutes les arrivées, les mecs qui se lient derrière Dolph Ziggler. Bon, Dolph Ziggler, on ne sait pas, c'est un petit peu out of nowhere quand même, hein, le Dolphin. Il débarque un peu là, comme ça, un peu. Et on se doute bien que là, face à la force destructrice qui nous est vendue avec le Keifley, ça va quand même pas très bien se passer pour Dolph Ziggler. Au final, on a un match de 11 minutes, qui est plutôt pour un opener de Raw, on va dire dans les canons du show habituel, entre 10 et 12 minutes souvent l'opener, ça n'a pas loupé. C'était assez, je t'avouerais même que moi j'ai même été un petit peu surpris de la résistance du Dolphin face à Keifley, quoi. Mais bon, ça va, c'était pas, ça m'a, je peux pas dire que ça m'a fait rêver, mais c'était pas mal. Keifley quand même, on notera, il s'est relevé d'un zigzag, quoi, hein,
ouais.
Comme devant lui de toute façon. Et voilà, sa spirit bomb là, c'est quelque chose quand même.
Ah ouais, c'est un beau finisher. Ben là, je pense qu'ils avaient choisi l'adversaire parfait pour mettre en valeur Keifley, justement. Le Dolphin, il le protège, mais ils en font un petit peu. Bah, c'est son rôle, hein. C'est un peu requinqué à Raw Underground. Il a eu quand même une feu de. On va dire qu'il n'a pas démérité contre Drew, mais bon, il est là pour ça maintenant. Hein. Il a son selling, il voltige un peu dans tous les sens. Il sert à donner les gros costauds, encore plus gros costauds, quoi. Moi, j'ai bien aimé aussi, comme toi, Orton continue. Mais c'est vrai qu'avec cette histoire de triple match pour un triple threat, honnêtement, je ne savais pas du tout au début du show vers quoi on allait partir pour le titre mondial. Si Orton allait changer de feud, allait s'orienter vers une feud contre Keifley, si on allait rebattre un petit peu toutes les cartes. C'était, pour moi, honnêtement, rien n'était gagné, hein, ce soir-là sur les matchs annoncés. J'avais pas vraiment de pronostic. Bon. Enfin, Keifley contre Dolph Ziggler, c'était assez évident, mais je veux dire, qui allait devenir first contender à la fin de la soirée, c'était tout. Il y avait plein de possibilités, hein, encore à ce moment-là du show.
Oui, c'était encore ouvert,
mais on va voir qui finira par fermer la porte. Avant cela, il nous reste beaucoup de choses dans la soirée. Bon, on passe toujours un petit peu dans les coulisses. On passe chez les femmes. Tiens, les femmes. Nous aimons les femmes. Il faut bien un petit peu de douceur féminine. Les femmes. On en a deux qui sont nouvelles championnes féminines tag team. Donc,
oui.
Enfin, ça, si on leur demande plus précisément, Nia Jax, en coulisses, elle fait un petit hommage à Kane et à Daniel Bryan en disant qu'elle se sent LA championne tag team féminine. Et qu'à ses yeux, Shayna Baszler sert juste à porter la deuxième ceinture. Bref, elles sont pas super copines, les deux championnes. Mais elles croisent Asuka, qui les provoque un petit peu, avant de partir sur le ring avec Charlie Caruso. Voilà, Asuka, bon, elle ne fait pas attendre Charlie Caruso. Il ne faut pas faire attendre Charlie Caruso, de toute façon, tonton Chris.
Hein, bonjour Charlie.
Tu l'as appris à tes dépens. Je crois que tu avais eu un petit peu de retard à cause des bouchons dans le RER à votre rancard et elle avait préféré finir la soirée avec Angel Garza, non, c'est pas ça?
Ouais, je l'ai payé très très cher ce soir-là, ce retard.
Ouais, mais alors pas merci, là, les transports en commun, la RATP, là.
Ah non, pas sur ce coup-là. Ah non, tu rates un date avec Charlie Caruso, je crois que derrière, quand même, dis ça à Zygote sur Discord aussi à propos de Melissa Santos, par exemple, et je pense qu'il te dira la même chose.
Ouais, non, c'est dur.
Ne jamais être en retard à un date, pareil.
Mais Asuka, elle est japonaise, et les trains japonais, on sait que c'est les plus rapides du monde, et les plus ponctuels, donc elle est là pour voir Charlie Caruso. Elle nous dit qu'elle a battu tout le monde, elle. Qu'elle est prête à... Elle a battu Becky Lynch, elle a battu Bayley, elle a battu Sasha Banks, etc. Et que quiconque soit la personne ready for Asuka, Asuka, elle est ready for anything. Elle est prête pour tout le monde. Était-elle prête à ce qui arrive? Je ne sais pas. C'est Mickey James qui débarque.
Ah oh, ouais.
Mickey James, hein, l'ex-besta d'Alexa Bliss, l'ex-qui a tout fait. Hein, Mickey James, de toute façon, a tout fait à la WWE. Elle débarque, elle veut ce title shot. Mais elle est interrompue par Natalia et Lana, les deux nouvelles amies trending worldwide, hashtag boat, best of all time. Tout le monde se met à se mettre sur la gueule et on se retrouve avec un Mickey James contre Lana. Lana, Mickey James contre Lana. Voilà l'affiche que nous avons en deuxième match de la soirée. Avec Asuka au commentaire, mais avec un micro qui ne marche pas. C'était un petit peu con. Ouais, bref, il y a eu un petit souci. Bon, de toute façon, sinon elle aurait gueulé en japonais. Alors très rapidement, Lana place une souplex quand même sur Mickey James dans ce match, mais ensuite elle va prendre assez vite un big kick et victoire de Mickey James. Voilà, Natalia a l'air un petit peu triste, et toi, est-ce que t'étais un petit peu triste aussi, ou est-ce que t'étais content de cette... Est-ce que Mickey James, Asuka, tu achètes l'affiche?
Mickey James, Asuka, alors là je t'avoue que ouais, déjà moi je tombais un peu des nues là, tu vois, que ça soit Mickey James qui soit balancé face à Asuka. Mmh. Là, première grosse surprise, et puis alors après derrière, waouh, le festival quoi! Natalia, Lana, un match, Mickey James versus Lana qui aura duré 2 minutes 30. Ouais, ok, c'est comme ça qu'on attaque avec la division féminine à rouge cette semaine. Oh bah là, hein, pour une saison de première, comme tu dis, c'était pas, ça m'a pas vendu du rêve, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Donc écoute, j'ai pas grand chose à dire de ce segment, ça m'a. Totalement. J'ai du mal à comprendre pourquoi balancer Mickey James à Sky. Il faut lui donner plus de compète. La nana, elle survole la division féminine. À Mickey James, ça me paraît quand même un petit peu gentil. Ok, elle a été six fois championne, mais ça commence à dater tout ça.
Oui.
James, elle est plus toute jeune non plus. Alors bon, elle vient certainement peut-être pour une feuille de transition du fait que là, il y a eu un espèce de basculement avec la victoire de Jax et de Baszler dans la title picture de tag team. Donc, effectivement, peut-être qu'ils ont besoin là, de balancer une feud de transition pour la japonaise. Mais espérons que ça ne soit que ça. Surtout que ça nous oblige à voir Lana sur le ring, mon bon Raphaël. Quoi. Et ça, c'est quand même difficile.
Mais ça, c'est effectivement le genre de choses qu'on ne pensait pas voir encore de nos jours. Mais comme quoi,
on a notre blonde à SmackDown et on a notre blonde sur le ring aussi à Raw. Voilà, on a Lana d'un côté, Mandy de l'autre. Voilà, ça se fight.
Bah, je préférerais voir Rousseff avec le Money in the Bank que Otis, mais bon, on choisit pas non plus tout dans la.
Ah bah moi aussi. Hein. Moi, il y a pas photo.
Bon, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que Asuka, elle l'a dit au micro, hein, elle a un peu battu tout le monde. Alors là, on va racler une challengeuse qui est, comme tu dis, légitime de son palmarès, mais bon, c'est comme si. C'est comme si Zinedine Zidane voulait revenir jouer au milieu de terrain de l'équipe de France aujourd'hui, quoi. C'est très bien, mais bon, ça fait pas trop rêver, ça fait pas trop de suspense.
Bah non.
C'est vrai que Shayna Baszler qui promettait de prendre la gagnante, et ben elle est partie sur autre chose en ce moment. C'est compliqué, de toute façon, moi je l'ai déjà dit sur le Discord de Catch Up, auquel je vous invite tous à participer. Je suis pour un très gros draft ou check-up, comme on appelle ça, bientôt, parce que je trouve que...
C'est prévu.
Ouais, c'est prévu chez les
tag
teams, chez les filles.
Il va y en avoir un à l'automne.
Ouais. Je pense qu'il faut, là, on va en reparler, mais on a trop vu les mêmes matchs, en fait, que ce soit à Raw, à SmackDown, et là, effectivement, pour Asuka, si c'est pas ces filles-là, il n'y a plus grand monde. Hein,
non. Alors, il n'y a plus grand monde. Il y a Sasha, mais Sasha n'était pas là.
Sasha était pas là, Sasha se balade plus trop sans Bayley. Bayley était à SmackDown, non, on sait pas trop. Bon, on verra bien tout ça. Alors, en coulisses, très rapidement, bon, on croise les Viking Riders avec Cedric Alexander. Il y a toujours la petite blonde là, de la télé-réalité qui est scrutée au loin par Angel Garza aussi. un triangle amoureux passionnant. Shirley Caruso, parlant de triangle amoureux, elle est devant la porte de Aleister Black, qui doit s'expliquer de son attaque inexplicable sur Kevin Owens de la semaine dernière. Mais c'est Randy Orton qui s'est trompé de loge, visiblement, et qui sort de la loge d'Aleister Black. En tout cas, ça va peut-être influencer ce qui suit, puisque dans la foulée, nous avons le match Randy Orton contre Kevin Owens pour ces fameux title shots au titre WWE. Et avant même que Randy Orton arrive, et alors que Kevin Owens est en train d'arriver, il a l'air motivé, hein, le Owens, il est chaud, et ben il se fait attaquer par derrière, justement par Aleister Black, avec son cosplay Jean-Marie Le Pen. Il lui envoie un Black Mass dans la tête. Alors Kevin Owens, il est un petit peu KO. Il va même pousser le vice plus loin, Aleister Black, puisqu'il attrape Kevin Owens, il le met sur le ring, et je sais pas si t'as vu, il a fait une espèce de... comment on appelle ça il a fait un salut à Randy Orton, il s'est incliné comme si en mode...
Oui, voilà, un peu un truc, une révérence.
Une révérence, voilà, je cherchais mon mot. Il lui fait la révérence, il le laisse faire, et puis évidemment, ben, alors là, RKO, et Randy Orton a même pas transpiré pour gagner le match. Quel est le timing, tonton Chris, et qu'est-ce que tu as pensé de ce segment?
Bah, le timing, déjà, le match a duré 16 secondes.
Ah oui, voilà.
Donc, voilà un segment bien envoyé. Écoute, bon, de toute façon, avec le sourire entendu de Orton et qu'enchaînait le match derrière avec Kevin Owens, ce sourire en sortant du locker room de Aleister Black. Bon, déjà, voilà, ça cassait un peu le truc aussi, quand même, moi, je trouve, quoi. Tu vois, ouais. On a pu voir un peu le Aleister Black, justement, pour le coup, débarquer un peu par surprise. Et ça n'a pas été le cas, donc rien à dire, hein. Orton file vers le triple threat du main event, et on sait que donc l'ancien challenger de Drew McIntyre sera en piste.
Oui, exact. Qu'est-ce que tu penses ?
Pauvre Kevin Owens.
J'allais te dire, il est très étrange, hein, tu trouves pas le traitement de Kevin Owens post-WrestleMania, là, on l'a peu vu, Il a aidé un petit peu Apollo Crews, il a aidé un petit peu Daniel Bryan, il a aidé
Il a fait des Kevin Owens show à droite à gauche, mais on le sent pas super impliqué, il a pas de rivalité véritablement complètement construite.
Non, il a aidé Rey Mysterio un petit peu, ouais.
Mais là, ça a l'air de se lancer avec Aleister Black, il a l'air d'être parti pour un programme avec Aleister Black.
Ouais, bon, ça, on va pas cracher dessus, a priori, hein.
Non, mais ils sont pas impliqués finalement dans les aventures autour des ceintures et pour l'instant ils sont pas vraiment bien définis sur la suite.
Ouais, en tout cas, Owens, très très bon, très bon catcheur, il y fait toujours plaisir de le voir, mais c'est vrai que on le protège pas plus que ça, quoi. Il a pris pas mal, hein, ces derniers mois de la part d'un petit peu tout le monde, des Mexicains, de Seth Rollins. Il sert un petit peu comme ça de souffre-douleur, j'ai l'impression.
Ouais, c'est vrai qu'il prend cher.
Il prend cher, mais bon, moi je suis pas inquiet pour lui. Hein, ça, dans 6 mois, il sera redevenu. Il sera peut-être redevenu champion ou je ne sais quoi au top niveau. Ça, c'est... Il y a des petits creux dans des carrières, mais pour Kevin Owens, je suis pas très inquiet.
Il est en mid-card, il continue à avoir de l'antenne, il est bon au micro. Donc moi non plus, je suis pas super inquiet pour Kevin Owens.
Mais bon, effectivement, on a hâte de voir des matchs un peu plus longs pour le Canadien. Voilà, donc Randy Orton vole vers le Triple Threat, il n'en reste plus qu'un, hein, plus qu'un à désigner, ça sera le match Dominic Mysterio contre Seth Rollins, parce que Ray ne peut pas catcher, on croise en coulisses la famille Mysterio, enfin au grand complet, puisqu'on a la petite Alia, la fille, la sœur de Dominic, donc je ne sais pas si on va l'envoyer dans la division féminine un de ces jours, mais bon, là on va la laisser finir sa puberté peut-être à elle, et puis voilà, bon, petit passage rapide. Avant qu'on ait le match entre Seth Rollins et Dominic, il se passe pas mal de choses quand même. On a notamment le VIP Lounge MVP, ou plutôt Pi, comme on l'appelle visiblement quand on est un petit peu intime. MVP est avec ses collègues du Hard Business, tout simplement. Il en profite pour dire que y a 3 constantes dans la vie, c'est la mort, les taxes et Bobby Lashley. Petite reprise d'une phrase de je sais plus qui, de Woody Allen peut-être, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est une blague assez classique aux États-Unis. Bref, Lashley, lui, nous dit qu'il a fait tout ce qu'il avait promis. Hein. Il a détruit Apollo Crews. En gros, il a pris le titre de champion US. Et ce soir, MVP, il essaye encore une fois de rallier Cédric Alexander qui est en train d'arriver à leur cause. Il dit, vas-y, Cédric, tu peux venir et tout. Là, t'es tout seul, nous, on peut t'aider, on peut faire de toi un champion, on peut t'offrir de l'amitié. Cédric Alexander, il dit non, moi, je refuse toujours la proposition, et puis je suis pas du tout venu tout seul. Bon, on le savait, avec qui il est venu, puisque ça avait été annoncé plus tôt. Les Viking Riders qui attaquent par derrière Shelton Benjamin et Bobby Lashley. Et on enchaîne donc sur un sur un 3 contre 3, pardon. Donc le
hard business. Six-man tag team match.
Six-man tag team match, voilà. Le hard business d'un côté, Cédric Alexander et les Viking Riders de l'autre. Donc au début, le hard business s'enchaîne un petit peu, s'acharne sur Eric des Viking Riders. Et puis ensuite, ça change un peu de côté. C'est les trois autres qui s'acharnent un peu sur Shelton Benjamin. Le hard business isole Cédric Alexander. Et puis à l'extérieur du ring, pendant que Lashley et Benjamin tapent les deux Vikings, et Alexander, et hop, il fait un petit roll-up à MVP. 1, 2, 3, il vole la victoire. Et MVP, il est mort de rire. Je trouve ça génial, il y a ses deux copains qui sont hyper vénères, qui veulent se tabasser. MVP, il les retient, il est « Oh, c'est bon, excellent, j'adore cette blague, formidable. » Bon, en fait, il l'a quand même un petit peu mauvaise, puisque la seconde d'après, on voit les trois du hard business en train de tabasser Cédric Alexander en coulisses, et aussi Apollo Crews et Ricochet qui passaient par là et qui venaient l'aider. Donc ça continue, il l'a dit, MVP au micro, on n'en a pas fini avec Apollo, tout ça continue. Il y a du monde dans ces histoires-là de mid-card avec les tag teams des uns et des autres, mais qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que ça te fait plaisir de voir Lashley champion? Est-ce que tout le monde est à sa place, ou qu'est-ce que tu penses de ça, Chris?
Ouais, c'est ce que j'expliquais pendant la review de Payback. Moi, je trouve ça plutôt satisfaisant que le Hurt Business prenne la ceinture US avec Bobby Lashley en champion. Ça me paraît intéressant pour la suite. C'était un match encore une fois assez court. Ça a duré 6 minutes 20. Ouais. Donc, on n'a pas eu. Et on a donné la part belle finalement aux Face, puisque les Face vont gagner ce match face au Hurt Business. Mm-hmm. Donc, petite défaite en passant comme ça, juste le lendemain de Payback. Voilà, mais j'ai l'impression qu'ils essayent quand même d'installer pas mal Cédric Alexander. On le voit de plus en plus. Les Viking Raiders, eux, ils naviguent toujours, quoi. Ils ont un peu oublié les ceintures et ils naviguent, quoi. Mais c'était pas trop mal, c'était très court. Je suis curieux, voilà, je suis avec curiosité l'évolution de Cédric Alexander et voir qu'est-ce qu'ils vont faire de lui.
Ouais, je trouve que tu as trouvé le bon terme pour les Viking Raiders. Ils naviguent, un coup ils sont avec les Street Profits, un coup ils sont avec les je sais pas trop comment on les appelle, là, les 2-3 voltigeurs, là, Alexander et Ricochet. Mustafa Ali a redisparu, tiens. Je sais pas si on a une info de blessure ou quoi.
Ah non, pas particulièrement. Donc je sais pas où il est. Il est pas dans les plans.
Non, je pense qu'il s'habille de noir avec d'autres potes à lui et il vient tabasser. Possible. Mais donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans cette mi-card. Ça va, ça vient. Les feuds se s'entremêlent un peu. Quand même, moi je reconnais au Hurt Business grosse solidité depuis quelques semaines.
Ouais, ouais.
Ils sont hyper mis en avant.
Ouais, MVP, je suis d'accord avec ça.
MVP, je le trouve en très bonne place. C'est mieux. Enfin,
c'est bien quand il catche pas, c'est super.
C'est
moi,
bien
quand il est au micro, ça me va.
Ouais, c'est bien quand il catche pas. Il est plus challenger lui-même, mais il s'est glissé. Enfin, il a laissé sans souci le rôle à Bobby Lashley. Et voilà, ça fait. C'est un clan. On sent que ça fait preuve d'intelligence. Les personnages sont crédibles, ils sont costauds. Moi, je les apprécie assez. On n'a pas fini de les voir, puisqu'on partira un petit peu plus tard dans le sous-sol d'Euro. Mais là, il n'est pas encore 10 o'clock, donc on va y arriver. On retourne un peu dans la division féminine, et alors là, tonton Chris, peut-être le moment le plus incompréhensible, bizarre, mystérieux de la soirée, le Perplexity, comme on dit, une stipulation qui sort de nulle part, on est en milieu de show, les Iconics affrontent le Riot Squad, bon, on va pas dire que l'affiche nous vend du rêve, mais alors, la stipu, les gagnants ont un title shot contre Shayna Baszler et Nia Jax. Déjà, je sais pas si c'est un cadeau. Et l'équipe perdante n'existe plus.
L'équipe est séparée.
L'équipe perdante est séparée. Alors, on ne sait pas comment...
Sachant que le Riot Squad, avait, la veille, en pré-show, avait battu déjà les Iconics à Payback.
Grosse pression, là. Alors, c'est un match féminin. Du coup, on a une série de tentatives de roll-up de part et d'autre. Et puis, finalement, Ruby Riot, roll-up time... Ruby Riot réussit à placer son roll-up à Billie Kay.
En 3 minutes 30.
Et voilà, les 30 minutes 30, hein, donc comme vient de le dire Tonton Chris, 30 minutes 30 de roll-up, le meilleur match de l'année. Et oh donc, alors déjà, déjà première info, on va avoir un match Shayna Baszler et Nia Jax contre Ruby Riot et Liv Morgan. Je pense déjà que, voilà, si vous êtes proche de la famille de Ruby Riot et Liv Morgan, vous pouvez déjà vous rapprocher peut-être d'un concessionnaire en pompe funèbre. Et par contre, eh ben, les Iconics, elles sont désespérées, elles sont en pleurs, elles se font des câlins pour se consoler, elles engueulent l'arbitre, mais...
Ah, ce moment de gênance. Oh là 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 là. Billy Kay. Oh là 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 là. Mais Billy Kay, mais j'en pouvais plus. Il fallait que ça s'arrête, ce segment. Il fallait que ça s'arrête.
Alors, ça s'arrête, mais Iconics no more, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Est-ce que tu y crois? Alors, est-ce qu'il les split ou...
Alors, écoute, il les split, hein, il les split, hein. De toute façon, ouais, ça, c'est clair. Apparemment, Peyton Royce ça a l'air d'être dans les bons petits papiers. Ouais. Billy Kay, un peu moins. Ouais. C'est quand même surprenant, parce que c'est quand même les filles qui avaient gagné le titre à WrestleMania 35.
Ouais.
Qui semblaient quand même super solides depuis leur arrivée à NXT, où elles ne sont jamais lâchées. Et finalement, c'est quand même vraiment une séparation vraiment surprenante, quoi. Alors que finalement, les deux nanas de l'autre côté ont, elles, été déjà séparées, et puis finalement, on les a remis ensemble pour leur Riot Squad. Donc, c'est des trajectoires opposées entre les deux teams, là. Et donc, voilà, donc un match sans absolument aucun intérêt, un roll-up time, quoi, pendant 3 minutes. Voilà, vous pouvez vous épargner ça, peuple de catch-up, c'est pas la peine. Et voilà, écoute, on va en reparler des Iconics. Donc, voilà, écoute, on en est là. Séparation des Iconics à la suite de vraiment cette stipulation, comme tu l'as dit, qui sortait de nulle part, contendership match et en même temps split, incroyable.
Oui, moi je on va reparler un peu plus tard de ça et de splitter les Iconics ou pas. Moi je sais pas, il est vrai que Peyton Royce a l'air d'être un peu plus mise en avant, un peu plus talentueuse sûrement aussi, parce que c'est vrai que Billy Kay, c'est pas en soi, c'est très loin d'être une très grande catcheuse, mais il y avait un truc quand même, je trouvais, avec cette équipe, avec ces filles. D'ailleurs, ils les ont mises championnes, ils les ont un petit peu enterrées pendant des mois, ils les ont réveillées, enfin, ils les activaient un petit peu quand ils voulaient. Je sais pas, je comprends pas. Alors que pour le coup, pour moi, l'équipe en face n'en avait aucun intérêt. Hein. Liv Morgan et Ruby Riot, je suis vraiment fan ni de l'une ni de l'autre. Et ouais, voilà, enfin, c'est quand même une hyper grosse tipu et sortie un peu au milieu de nulle part. Enfin, je trouve vraiment dommage que, quitte à mettre un split, ils n'en aient pas fait une fade un peu plus que ça. Ouais. Paresse de booking et drôle de segment. C'était un peu ridicule, en fait, presque. Un peu grotesque. C'est bien dommage, c'est bien triste. En tout cas, ben voilà. Iconics no more.
Finish!
C'est finish. Et puis, c'est peut-être pas la fin comme ça de cette soirée de split, puisque ensuite... Nous retrouvons le Monday Night Messiah, Seth Rollins, au milieu du ring,
oui,
avec son acolyte Murphy, à qui il prend le micro, Rollins, et il regarde Murphy, et il lui dit qu'à cause de Murphy, Murphy l'a frappé à Payback, bon, sans faire exprès, mais quand même, que c'est lui qui a pris le pin de Dominique, il veut pas d'erreur ce soir, Seth Rollins, du coup, il demande à Murphy de dégager, il lui dit... Il dit en gros, t'es naze, tu sers à rien, va réfléchir un petit peu à qui tu veux être, de quel côté de l'histoire tu veux être, casse-toi là, c'est mon ring, va-t'en d'ici, je suis plus ton copain. Murphy, il est pas très content, il s'en va, il obéit, il est pas très content quand même. Bon, après, il se prend un pain dans la gueule de Dominique Mysterio, donc ça lui
voilà,
permet de...
C'est comme ça que ça se passe, dans la Mysterio Family.
Ça lui permet de réfléchir un petit peu plus la tête chaude là, Murphy. Et on enchaîne donc sur Seth Rollins contre Dominique Mysterio. Alors, pour le coup, là, vraiment un contre un, hein, puisqu'il n'y a pas Murphy, et la famille Mysterio n'est pas non plus aux abords du ring. Dominique, il commence à prendre ses petites techniques, ses marques de fabrique, là, et son espèce de saut sur la troisième corde avant d'enchaîner avec une torsion de bras, il nous l'a fait encore un petit peu. Il tente un 619 assez vite dans le match, qui est finalement évité. À l'extérieur, il court sur la table des commentateurs pour placer une senton bomb qui est pas mal réussie.
Ouais, ouais, ouais.
Joli. Seth Rollins va ensuite largement ralentir le rythme en le tenant au milieu du ring longtemps avec un ciseau de jambe. Mais Dominique continue le fuego mexicano, Huracanrana pour envoyer Seth Rollins dans le coin. DDT ensuite. un 619 qui passe. Il l'avait dit, hein, il avait un 619 au nom de Seth Rollins gravé pour ce soir. Par contre, derrière, ah, il rate le splash, il retombe un petit peu mal. Hein, n'est pas son papa qui veut le frog splash. Eddie Guerrero l'aurait peut-être réussi, mais là, Dominik, il rate. Et du coup, Seth Rollins, il se relève, il part dans le coin, curb stomp. Et bon, finalement, il n'aura pas beaucoup brillé, hein, Seth Rollins, dans ce match. Il a un petit peu laissé passer la tornade, mais il a quand même eu la présence d'esprit de placer son finisher. Là où c'est pas beau, c'est qu'une fois qu'il a gagné, il en place un deuxième, comme ça, gratos, pour se défouler. Et ça plaît pas du tout à Maman Mysterio. Je sais pas si t'as remarqué que la caméra a fait 3 ou 4 gros plans sur Angie Mysterio en coulisses. Si on veut nous faire comprendre qu'elle va intervenir dans la feud, ça a été fait avec subtilité et douceur, tout à l'image de la WWE. Bon, bah, Dominik Mysterio, pour le moment, palmarès, une victoire, deux défaites à la WWE. Mais bah, oui. On prend son rythme quand même, il prend ses marques toujours.
Bah, écoute, moi je dis que ce gamin, il est bien ce gamin, quoi. Écoute, franchement, voilà, 23 piges, se retrouver balancé comme ça face à un Seth Rollins. Les deux matchs qu'il a sortis. Alors là, effectivement, il est dans une rivalité un peu exclusive depuis qu'il est arrivé, puisque tout se passe avec le Messiah. Mais bon sang, ne saurait mentir, quoi. Moi, je trouve que le gamin, il s'en sort super bien entre les cordes et qu'il fait des, il tente des trucs. Il a l'air d'être assez safe pour ses adversaires partenaires. Moi, je suis plutôt agréablement surpris. Hein. Il manque d'épaisseur. Voilà. Il va falloir qu'il aille un peu à la salle, tout ça, qu'il prenne de l'épaisseur. Mais sorti de ça, et ben moi je le trouve. Et il lui manque aussi un truc, c'est qu'il lui manque un move, tu vois, vraiment propre à lui sur le finish. Qu'il utilise les signature moves de Rey Rey et d'Eddie Guerrero, bah ouais, bah voilà, il rend hommage. C'est la tradition des Latinos en plus, ça, quoi. On reprend les moves du père, de l'oncle, du grand-oncle. Donc il n'y a pas de problème avec ça, mais j'aimerais bien que tu vois qu'il définisse un truc à lui, voilà, quoi. Un truc Dominik Mysterio, quoi, qu'il ait un move là. Il est grand en plus, il est. Il est assez longiligne et moi je trouve je suis vraiment ouais vraiment vraiment moi Dominik pour l'instant j'ai pas grand chose à redire sur ce qu'il délivre entre les cordes. Et après le match il a duré 9 minutes 55 comme tu l'as dit, Seth Rollins il a pas mal vendu hein, il a fait beaucoup de séries ouais. Seth Rollins dans ce match là mais il finit en méchant heel pas beau du tout et voilà, c'est pour ça qu'il va venir coller son deuxième curb stomp. Et victoire assez logique, là je m'attendais pas, j'aurais été vraiment hyper surpris que Dominik sorte une nouvelle victoire. Là voilà, là pour le main event, il fait un Seth Rollins, Orton, Kissy, ça vend du lourd.
Pas dégueu comme affiche effectivement.
Non. Bah, écoute, un bon blockbuster pour Raw.
Ouais. Oh, ça ferait même un beau pay-per-view, hein. Ça aurait pu.
Ouais, un beau match de pay-per-view aussi, ouais, tout à fait. Ouais.
Mais je te rejoins, hein, je participe aux louanges sur Dominik. Je pense que ça viendra à l'histoire d'un finisher qui lui est propre. Il est très appliqué, on ne peut pas dire le contraire. Moi, je le trouve notamment aussi bon sur le selling, d'ailleurs, puisque c'est parfois ce qui fait un peu défaut aux jeunes comme aux vieux. Hein, mais c'est des athlètes, ils s'entraînent beaucoup. C'est vrai qu'enchaîner les prises, c'est toujours une performance. Mais c'est vrai que tout ce côté psychologique du selling, c'est pas donné. Il est crédible, il s'en sort bien. Là, il est vraiment entré à la WWE par cette porte de la feud en aidant son papa contre Seth Rollins. Je suis vraiment curieux de la suite. Comment ils vont un peu le positionner sur l'échiquier. Là, en 1 contre 1, évidemment, il est inférieur à Seth Rollins. Mais il a presque paru un peu supérieur à Murphy. Alors, est-ce qu'ils vont le placer assez haut? Est-ce qu'ils vont le faire un petit peu squasher parfois s'il est tout seul? Je ne sais pas, mais... Je pense que c'est réussi. C'est vraiment difficile de savoir sans public. Je ne sais pas trop. De toute façon, il n'y a pas du merchandising Dominik Mysterio encore, je ne pense pas. Mais voilà, est-ce que ça suscite vraiment un intérêt chez les fans? Je pense en tout cas qu'on est tous curieux de le voir. Ça marche bien, quoi. C'est une réussite de cet été. Après, à voir sur le long terme si vraiment il arrive à nous intéresser. Je pense qu'il y aura très probablement une occasion pour lui et son papa d'aller dans la division tag team. Hein. Je pense que ce sera un peu le rêve ultime pour la famille Mysterio d'avoir l'or tag team autour d'eux, mais
ça serait beau, ça serait magnifique, ça serait une belle histoire, mon bon Raphaël, ça. Alors là, si les Mysterio chopaient le titre tag team, allez, même une petite semaine à la façon fine entre SummerSlam et Payback, mais franchement, moi, ça m'irait bien.
Allez, bah écoute, je vais bosser pour ça, tonton Chris. Dominik et Rere au prochain WrestleMania tag team.
Merci.
Voilà. Bon, ça c'était un beau moment, mais enfin, C'est une belle projection dans le futur. Maintenant, on va se plonger dans le sous-sol. Ça y est, c'est l'heure. Il est 10 o'clock. Shane McMahon est toujours en feu. Le Raw Underground est parti. Alors, je ne sais pas ce qu'il leur promet, Shane McMahon, mais tout le monde veut aller au Raw Underground. On retrouve même ce soir Titus O'Neil.
Eh oui.
Voilà, qu'on n'a pas vu catcher sur un ring officiel de Raw depuis... Oh, je pense qu'il fait le Rumble chaque année. Et puis, c'est à peu près tout. Hein. Ça doit être ça.
Ces dernières années, c'est ça. Hein.
Ouais, donc Titus O'Neil qui arrive, alors lui qui a pourtant l'image du bon père de famille et tout, et ben il vient tabasser un petit peu dans les bas-fonds. Il envoie deux peignes, il gagne deux matchs, si on peut appeler ça des matchs, très rapidement. Et ensuite, par contre, il y a Riddick Moss qui arrive, et Riddick Moss, et ben c'est un peu plus délicat, mais Riddick Moss, il est un peu plus vicieux. Il utilise même des low blows, et Riddick Moss bat Titus O'Neil. Donc c'était le premier passage dans la Raw Underground. Voilà, est-ce que ça t'intrigue de voir Titus O'Neil?
Non, bah, toujours la même réflexion à propos du videur, que je trouve totalement ouais. Hallucinant, et que moi, il serait direct en slibard sur le ring. Mm-hmm. Deuxième chose, j'ai trouvé que Titus O'Neil était dans une forme assez éblouissante, quoi, une shape assez incroyable, quoi, le Titus O'Neil.
Ah oui.
Et, le Riddick Moss aussi, hein, pareil, hein, ça c'est des mecs qui ont l'air de bosser à la salle. Hein. Et voilà, et on y reviendra parce que ça va revenir le Raw Underground. Mais bon, moi, il y a deux trois petites choses qui me gênent par rapport au Underground. Mais j'attends qu'on passe sur le deuxième segment pour expliquer.
Ouais, on fera peut-être même un truc général. C'est vrai que plus la soirée avance, plus on y va dans les profondeurs. Donc le Raw Underground prend de plus en plus de place. Alors ensuite, avant ça, les Street Profits. Ils sont chauds, ils sont bouillants, les Street Profits. Et Angelo Dawkins nous sort une petite session de Coach Dawkins avec un tableau. Nous présentant les trois personnages de la Vega Band, là, donc qui, voilà, entre Andrade, ancien champion NXT, Angel Garza, Zelina Vega, il a fait un petit peu son tableau, mais bon, ils veulent le smoke, ils sont chauds, ils vont affronter ce soir, donc les Street Profits contre Andrade et Garza dans un Tornado Tag Team Match. Tornado, c'est tout le monde se met sur la gueule tout le temps, il n'y a pas de hot tag ni rien. Juste entre-temps, on a un petit segment qui nous montre que quand Tozawa est arrivé sur le parking, eh bien, il est tombé dans le panneau d'un arbitre déguisé en agent de parking qui a permis à Artruf de reprendre le titre 24-7. Est-ce que ça t'a un petit peu fait sourire, rire, ou ça commence à faire un petit peu beaucoup, là, le titre 24-7 ?
J'y prête quasiment même plus attention. Voilà, un ouais. Roll-up, hein, les amis. Et mm-hmm. On pourra juste signaler pour l'anecdote que Artruf remporte ce titre pour la 39e fois. Voilà, donc Tozawa, du coup, il kidnappe l'arbitre, hein, quand même, hein, en partant dans la bagnole. On ne sait pas ce qu'il va faire avec dans la bagnole, mais en tout cas, il kidnappe l'arbitre.
Il oublie un ninja.
Mais il oublie un ninja. Voilà, il laisse il prend l'arbitre, mais il laisse un ninja en route. Voilà, le titre 24-7 est complètement dans les bas-fonds. Il est plus underground que l'Euro Underground.
Ah oui, jolie formule. Non, c'est... Ouais, c'est vrai, quoi. C'est-à-dire que de temps en temps, il l'utilise un peu, voilà, pour Shelton Benjamin ou autre, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est le titre que tout le monde oublie une fois qu'il l'a perdu, sauf Artruf. C'est-à-dire que Shelton Benjamin l'a eu, maintenant il s'en fout. Cédric Alexander, de mémoire, l'a eu, il s'en fout aussi.
Ah ouais, ouais, mais tous, ils s'en foutent, quoi.
Tout le monde s'en fout.
Globalement, il y a Artruf qui s'y intéresse, et depuis quelques semaines, Akira Tozawa.
Ouais, mais c'est pareil, à un moment donné, il passera, il fera comme Drake Maverick ou autre, au bout d'un moment, il s'arrête de s'intéresser. Il n'y a que Artruf. Bah écoute, on va le laisser s'amuser avec. Parce que sur le ring, il y a du beau monde, là, quand même. Street Profits, Andrade, Angel Garza. Il y a moyen que ça envoie fort. Hein. Il y a une grosse session où il y a une avalanche suplex avec Dawkins qui envoie sur le ring les trois autres. Hein.
Puisque tout le monde. Gros spot,
tout le monde tape tout le monde. Les Mexicains sont bons, hein. Les Mexicains sont pas mal. Ils envoient Montez Ford dans le poteau, ils le font rouler à l'extérieur. Ensuite, ils travaillent Dawkins. Andrade lui fait sa soumission au bras entre les cordes. En plus, on ne brise pas les soumissions dans les cordes. Là, c'est vraiment un match extrême. Bon, Dawkins, à un moment donné, il se réveille. Il met la souplesse à Andrade. Un bulldog. Andrade ensuite reprend le dessus. Avec Garza, il travaille. D'ailleurs. J'avais oublié de préciser, mais il y a la petite blonde, là, la petite meuf qui regarde le match, puisqu'elle soutient aussi Angel Garza. Donc, ils font, tous les deux, ils font un stomp sur Dawkins là, depuis le turnbuckle. Mais tout d'un coup, Montez Ford brise le pin, il se réveille, il pète un petit peu les plombs, il envoie tout le monde dehors, il commence à secouer les cordes à la Batista. Mais là, les lumières commencent à s'éteindre, à clignoter. Montesford est un petit peu inquiet. De suite, Angel Garza, n'écoutant que son cœur d'homme sensible, va attraper sa petite blonde et il court hors du ring avec. Et ils ont bien fait. Ils ont bien fait parce que Retribution est là. J'avais oublié de signaler qu'on avait vu beaucoup plus tôt dans la soirée. C'était Adam Pearce, je crois, encore une fois. Avec la sécurité, en disant ce soir, il n'y a pas question que Retribution arrive parce que vous êtes payé pour la sécurité, sinon on engage d'autres mecs. Et ben, il va falloir engager d'autres mecs parce que Retribution est là. Ils sont nombreux, encore une fois. Hein. Là, je crois qu'il va falloir arrêter toute théorie de savoir qui est qui parce qu'ils ne sont jamais le même nombre. Ils se mettent à tabasser tout le monde. Donc, tout le monde, pour rappel, c'est Dawkins, Montesford, Andrade et Zelina Vega qui prend aussi sa petite dose. Et ensuite, ils se barrent. Taper tout le monde et partir. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Je ne dis rien de plus, c'est ma théorie, mais voilà. Et du coup, ensuite, la sécurité continue de chercher Retribution, mais c'est un petit peu tard. Voilà, alors, paresse de booking, parce qu'on ne savait pas trop comment finir ce match-là, ou qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes ça, Retribution, ou pas? On sait que notre ami Papy, lui, commence à plus trop aimer. Tonton Chris, client.
Moi, je ne sais pas quoi en penser, ce truc-là, ouais. Je ne sais pas quoi en penser. Alors, effectivement, toi, j'aime bien ta théorie avec le Roman Reigns qui pourrait être à la tête de Retribution. Et ça voudrait être pire que ça, parce que ça voudrait dire, en fait, que c'est Paul Heyman qui est à la tête de Retribution. Et ça pourrait être une autre affaire, une espèce d'angle d'invasion à la mode ECW, par exemple. Donc, je ne sais pas. Après, si tu veux, ce qui est marrant, c'est que. Enfin, ce qui est marrant, je ne sais pas si c'est marrant, mais le match en lui-même, le Tornado Tag Team, moi, j'ai vachement aimé. Ça a duré 9 minutes 30, mais j'ai trouvé que c'était génial. J'ai trouvé que les mecs étaient à fond. Et j'étais déçu, en fait, quand Montesford s'est mis à secouer les cordes à la Batista ou à la Ultimate Warrior, là. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à déconner avec les lumières et qu'il y a les 10-12, je pense, grosso merdo, je pense qu'ils étaient une douzaine, là, sur ce coup-là, à venir attaquer et en mettre à peu près plein la tronche à tout le monde. Bon, voilà, ils arrivent en fin de show, quasiment. On n'en sait toujours pas plus. Il n'y a plus beaucoup de réactions. Hein. Tu as vu que maintenant, les commentateurs, ils s'en foutent. Hein. Ils bougent même plus de leur table. Hein.
Donc, si, ils se sont barrés, je crois.
Hein. Ah, t'es sûr? T'es sûr
qu'ils se sont barrés? Il me semble qu'il y a toujours Michael Cole ou je sais plus qui fait « Oh, it's Retribution !»
Ah, j'ai pas fait gaffe, tu vois. Sur le coup, moi, j'ai eu l'impression qu'ils n'avaient pas bougé. Enfin, bon, bref. Mais si tu veux, là, pour le coup, bah, Retribution, on ne sait absolument pas où ça va, à quoi ça sert... Quelles sont les revendications tu vois. Voilà, il y a un moment où il faut qu'il y ait un message aussi derrière tout ça, quoi. C'est-à-dire que, ok, on vient casser des gueules, ok, mais expliquez-nous, quoi.
Ouais, c'est le problème pour le moment, c'est ça. Alors, ça, au début, ça avait une part de mystère. Au bout d'un moment, c'est vrai que ça commence à faire un peu long, parce qu'ils s'en prennent un peu à tout le monde.
Ça fait plusieurs semaines que ça dure, la petite affaire, maintenant. Donc,
ouais, alors ça permet peut-être d'éliminer, je crois que c'est notre ami Papy qui voyait Zelina Vega, lui, dans Retribution, a priori non, à moins
non.
que...
Ouais, là, je crois que c'est mort.
C'est mort, à moins que ça serait pas la première fois, hein, que quelqu'un se fait taper, et puis en fait, il fait partie du gang, hein. Suffit de voir les champions Cruiserweight à NXT, c'était un peu ça l'idée aussi, mais... Ouais, et puis effectivement, ils s'amusent, on sent bien hein, qu'ils s'amusent à brouiller les cartes parce que sur la catchosphère, le lendemain du dernier passage de Retribution, on voyait les photos là, des gars et des filles de Retribution au milieu du ring avec des, t'as dû voir comme moi, hein, des noms qui étaient mis. Alors, on parle de Dijakovic, on parle de Mia Yim, on parle de je sais pas qui d'autre, chacun sa théorie. Bon, là, ils sont pas du tout le même nombre que d'habitude, ça rebat les cartes. Écoute, moi j'avais cette théorie, effectivement, je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup à la phrase de Roman Reigns, là, je sais plus comment c'est le mot en anglais, mais « break everybody », enfin ouais, voilà, « and leave », détruire tout le monde et s'en aller, parce que là c'est vraiment ce qu'ils font, hein, c'est des flashs, ils arrivent, ça dure 3 minutes. Du coup, pour moi, ça explique un peu l'absence de réaction, tu pourrais te dire « bon, bah, le locker room n'a pas le temps de réagir, on aimerait bien voir arriver tout le monde de Monday Nitro, mais le fait que ça dure que 2 minutes, pour le coup, je trouve ça légitime un peu le fait que tout le monde n'ait pas trop le temps de réagir, mais il faudrait finir par savoir. Moi, j'aimerais bien en fait que ça soit ça, que ça soit un mec déjà en place qui lance tout ça. Et Roman Reigns, avec Paul Heyman derrière, me paraît un bon coupable. Ou alors, bon, j'avais pensé à Ciampa à un moment donné. On a parlé tout à l'heure un peu Mustafa Ali. Moi, j'ai plutôt envie que ce clan, ça serve juste à une ou deux personnes et que derrière, ça reste en fait juste des no-names, un peu comme les ninjas de Tozawa. Je sens pas trop ces théories qui veulent caser plein de gens de NXT. Je vois pas trop ce que ça voudrait dire d'avoir Dijakovic avec je sais plus qui d'autre, avec Shane Thorne et un petit peu... Enfin, foutre un peu un clan en vrac, pourquoi pas, on verra bien. Mais Bon, ouais, c'est un point d'interrogation. Papy, lui, on va le dire de suite, hein, il a mis le flop à Retribution ce soir, mais pour moi, ça sera plutôt, encore une fois, Perplexity, là. Interrogation.
Ah ouais, pour moi aussi, ouais. Mais bon, si ça dure encore des semaines et des semaines, ça va finir par ne plus me plaire du tout, cette affaire.
Ouais, il va falloir qu'il se passe un truc là, aller peut-être
Ouais,
encore
ouais.
une semaine ou deux. Déjà, peut-être
Enfin,
clarifier.
une vraie histoire qui se construit, quoi.
Voilà.
Pas, tu vois, pas un truc, juste des mecs qui viennent. En plus, les mecs, ils viennent pas sur les pay-per-view.
Non.
Là, maintenant, ils font plus qu'un one-shot par émission. Et puis ils disparaissent derrière. Là, ils interviennent dans l'avant-dernier match tu vois, de la soirée. Bon, ok, les mecs, ok. Bon, mais maintenant, on fait quoi?
Ouais, la menace, au début, on les prenait un petit peu pour des gamins de cour d'école, et là, on dirait plus des adolescents qui veulent juste faire des
Ouais,
passages.
sauf qu'on a constaté que depuis, ils ont mangé un peu de poulet aux hormones et qu'il
Ouais.
y en a quelques-uns qui ont pris 20 cm et 25 kilos. Donc, c'est. Donc, voilà. Donc, maintenant, voilà, voyons à quoi ressemblent ces fameux Retribution.
Mystère, mystère. On verra bien dans le futur. Déjà, on va voir s'ils apparaissent à SmackDown ou pas, puisque ces derniers temps, ils sont un peu. Moi, voilà, on les a pas vus le même show que Roman Reigns. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est deux histoires bien distinctes ou au contraire, ça cache quelque chose? Voilà, j'ai ma théorie. Je reste là-dessus pour le moment. Et nous allons continuer. Alors, après ça, on est reparti un petit peu Raw Underground. Underground avec les Iconics justement qui sont là, qui sont un peu deg de leur séparation, mais enfin visiblement relatif puisqu'elles sont encore ensemble. Shane McMahon leur dit vous en faites pas, venez un petit peu vous amuser, et on part voir du segment féminin dans le Raw Underground. Donc ben il y a j'ai pas noté leur nom, mais il y a notamment une meuf qui est là, j'en suis sûr, hein, on l'a vue très 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 souvent dans le public quand on était au Performance Center. Là, il l'a filmé beaucoup, cette grande blonde assez costaud là, qui a envoyé un petit peu dans la gueule à tout le monde là. Et puis au final, c'est Peyton Royce qui envoie sa copine Billie Kay au milieu du ring se faire prendre des kicks par les catcheuses de Raw Underground. Donc scission véritablement marquée a priori. Shane McMahon est tout étonné. Mais on enchaîne avec Apollo Crews contre Shelton Benjamin à Raw Underground. C'était l'affiche qui nous avait été annoncée plus tôt dans la soirée. Donc Cruz et Benjamin s'affrontent, se tiennent dans tous les sens. Bon, c'est du underground, hein. C'est pas des prises spectaculaires. Il n'y a pas de corne ni de turnbuckle. Ils finissent par tomber dans la foule. Et alors là, ça part en baston avec le Hurt Business contre avec aussi Alexander et Ricochet. Et au final, encore une fois, le Hurt Business vole le show, hein. Ils détruisent les trois autres.
Ah ouais.
Benjamin, Lashley, MVP. Ils ont, je sais pas si t'as vu Ricochet. Il gît dans son sang, dans son urine, dans sa transpiration, dans tout ce que tu veux. Il est démonté en 1000 morceaux. Je sais plus lequel, je crois que c'est Alexander, il est étouffé, pareil, détruit. Et Apollo Crews en miettes. Shane McMahon, il dit voilà, Hurt Business, prove the point. Décidément, le Raw Underground, ça leur plaît bien à ceux-là. Hein.
Ah ouais, leur business, c'est les patrons, hein. À
Ouais.
chaque fois qu'ils y débarquent, ils pètent des gueules dans tous les sens, quoi. Là, franchement, là, on peut pas dire là-dessus. Alors voilà, moi, ce qui me pose problème en fait avec le Raw Underground, c'est que le Raw Underground, finalement, ça nous montre du shoot wrestling.
Ouais.
Et ça nous. L'arbitre, il y a un arbitre, mais bon, qui sert quasiment à rien. Et c'est finalement c'est Shane McMahon qui dit hey, stop, 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 il faut arrêter là, il faut arrêter là, attendez, 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 lui, il n'en peut plus, il veut sortez-le du ring, sortez-le du ring. Et ça nous montre du shoot wrestling et ça nous montre quasiment, on nous dit, bah regardez, bah voilà, là, ce qui s'y passe, c'est du vrai, quoi. Donc, sous-entendu, ce qui se passe sur le ring, dans l'aréna, c'est quoi
Mais ouais.
alors? Tu vois, ça me pose un problème sur la conception même là du wrestling, en fait. C'est assez compliqué, je trouve, cette histoire de shoot wrestling, là. Alors, c'est court, à chaque fois, c'est des segments assez courts, etc., où tout le monde se lâche bien, et effectivement, il y a de la bonne bagarre! Mais comme on aime un catch-up, mais ça quand même, ça, je trouve que ça envoie pas un super bon message, tu vois. Et ce qui se passe avec les Iconics aussi là-bas, pour moi, n'envoyait pas non plus un bon message, quoi. Donc je sais pas, t'en penses quoi toi de ça?
Je suis un peu d'accord avec toi, moi ça me fait penser à tout ce débat qu'il y avait eu avec Ronda Rousey, hein, quand elle avait commencé sa fameuse et à mon sens justement négative feud Twitter, où elle disait en gros à Becky Lynch que Becky Lynch elle faisait juste un faux sport avec une prise de soumission qui fait même pas mal, et que voilà, que elle a fait un vrai sport. C'était assez délicat, je trouvais. À la limite, moi tu vois, je peux. peut-être comprendre un peu plus parce qu'il y a le côté c'est pas que c'est du show de wrestling, je vois plutôt le côté c'est pas les mêmes règles, le fait qu'il n'y ait pas de cordes, qu'on puisse pas rebondir sur les cordes, prendre appui, enfin c'est pour moi c'est plus que c'est pas les mêmes règles. Moi ce qui me dérange surtout c'est qu'on nous a rien expliqué, c'est-à-dire que un jour on nous a dit bah il y a Shane McMahon qui revient déjà, bon, il était censé avoir été fired par une défaite contre Kevin Owens, mais bon, c'est le fils du patron, il est fired, il revient quand il veut. On sait pas trop ce qu'il veut en fait Shane McMahon avec ça. C'est un peu, moi je vais lui donner un peu la même critique que ce que tu viens de donner notamment à Retribution, c'est que ça commence à faire quelques semaines et on sait pas encore est-ce que c'est un univers à part, est-ce qu'il va y avoir des ceintures de underground, pourquoi il y a des catcheurs,
je pense pas,
mais pourquoi il y a des catcheurs et des catcheuses du rôle principal qui viennent, qu'est-ce qu'ils y font, quel est leur intérêt.
Il se dit dans les milieux autorisés qu'il s'autorise à penser que Vince McMahon, il n'est pas super fan du Raw Underground.
Oh.
Que c'est un truc qui vient du fiston et que du coup, bon...
Ouais, il lui a déjà confisqué...
Il lâche un peu du lest à Shane. Quoi.
Ouais, il lui a déjà confisqué les gogo danseuses, donc pas trop d'infos. Mais pour moi, c'est ça, c'est un positionnement un peu bizarre, ouais, comme tu dis. C'est-à-dire, on voit des gars qui ont l'air hyper costauds, là, Riddick Moss, même Titus O'Neil, et puis ses filles, là, moi, j'ai pas noté son nom, mais cette grande-là, elle m'impressionne assez, là, la grande costaud qui a un peu détruit tout le monde. Pourquoi ils sont pas entre les cordes, ensuite, au-dessus? Pourquoi parce qu'au-dessus, bon, voilà, il y a des ceintures, quoi, il y a de l'argent à gagner, il y a des titres, il y a des machins, il y a la lumière, alors pourquoi en se complétant à rester dans l'obscurité, qu'est-ce qu'on vient y chercher? C'est ça qui n'est pas bien clair. Je trouve pas une exposition télévisuelle, puisqu'effectivement, il y a des segments réguliers, mais pourquoi Apollo Crews et Shelton Benjamin ils s'affrontent dans le Raw Underground et pas dans le Raw tout court? Je crois que Papy avait raison, malheureusement, et qu'ils ont lancé un peu cette idée comme ça, sans trop savoir quoi en foutre. Il y a 2-3 mecs costauds qu'on revoyait souvent, mais là... On les voit moins, là, comment il s'appelait, là, le très grand, l'espèce de Samoan ou je sais pas quoi, là, qui avait un nom un peu rigolo, je sais plus, j'ai perdu son nom maintenant, mais un qu'on voyait beaucoup au début, là, il y est plus trop. Ziggler a fait quelques sessions, mais bon, voilà. Ouais, c'est assez mystérieux, en fait.
Ouais, c'est très mystérieux, ouais.
Très mystérieux.
C'est très mystérieux.
Peut-être qu'un jour, on verra Dominique Mysterio dans le Raw Underground, je ne sais pas.
Qui sait c'est...
Au début, on suit son papa, on va au travail, et puis il y a un mauvais garçon qui nous entraîne, et puis on finit par fumer des cigarettes et tout ça, et puis il va finir à se cogner là, dans le underground. Ah, qui sait. Bon, en tout cas, ça sera la fin du Raw Underground pour ce soir. Il ne nous reste plus que le main event. Alors, à ce moment-là, il reste plus beaucoup de temps sur la carte, hein, surtout qu'en coulisses, Angel Garza qui fuyait avec la petite blonde en mode il lui dit je resterai toujours avec toi pour te protéger, et bah, il croise Retribution et Angel Garza il détale à la vitesse de Speedy Gonzalez et il laisse la petite blonde toute seule, mais la petite blonde dont je ne me retiens pas le nom comme vous l'aurez compris, la petite blonde elle finit par, au début elle est tétanisée mais les gens de Retribution ils sont un peu... tétanisé aussi, enfin ils ont tabassé un mec de la sécu et puis finalement ils la laissent un peu s'enfuir sans rien faire quoi, parce que je sais pas, on tape pas les femmes, ils l'ont déjà fait, on tape pas les blondes peut-être, mais voilà, en gros je crois qu'ils ont croisé Retribution qui rentrait à la maison, hein, c'est tout, hein.
Oui voilà, ouais qui rentrait à la maison et ils ont couru très vite et puis point barre quoi,
voilà,
il s'est rien passé de notable,
juste que Angel Garza défend peut-être pas autant les femmes qu'il le promettait, ce qui nous promet des discussions amoureuses et sentimentales de haute qualité dans les prochains rows. Hein. Mais ça sera pour le prochain row. En attendant ce soir, donc, le résultat de tout ce fil rouge de la soirée. Randy Orton affronte Seth Rollins et affronte Keith Lee, Triple Threat, pour le title shot, pour le titre mondial, de Drew McIntyre. Donc dès que ça commence, Randy Orton, il roule à l'extérieur, il dit « Démerdez-vous les gars ». Alors Seth Rollins, il n'est pas content parce que visiblement, ils se sont parlé. Il lui dit « Mais t'avais dit qu'on allait bosser ensemble ». Alors Randy Orton, il dit « Ouais, j'ai changé d'avis ». Seth Rollins, il dit « Comment ça on change pas d'avis, tu changes pas d'avis comme ça ». Mais là, il se fait attraper les cheveux par Keith Lee qui l'envoie à l'intérieur du ring, qui le fait voler un petit peu dans tous les sens. Sauf que Randy Orton, il en profite, il cherche son ouverture. Finalement, Randy Orton et Seth Rollins décident de travailler ensemble. Keith Lee leur envoie un crossbody sur les deux, là, en passant par-dessus la troisième corde, c'est assez impressionnant. Dehors, Randy Orton fait son classique, là, il soulève Keith Lee, il le fait tomber le dos sur la table des commentateurs. Orton et Rollins envoient Keith dans les escaliers. Ensuite, on remonte sur le ring. Randy Orton demande à Seth Rollins, vas-y, viens m'aider. Seth Rollins arrive, boum. Randy Orton lui colle son DDT, les deux pieds sur la corde. Vintage Orton, on ne fait jamais confiance à une vipère. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Orton tente un RKO, mais Seth Rollins le contre en Falcon Arrow. Keith Lee décide que c'est fini les conneries. Il se réveille, il prend Seth Rollins, il l'envoie sur Randy Orton. Il part à l'extérieur du ring, il charge Randy Orton, il nous fait presque un Strowman Express. Ensuite, il envoie Seth Rollins à travers la table des commentateurs. Mais donc il y a un petit peu, ça part un petit peu dans tous les sens. On se retrouve au milieu du ring. Seth Rollins part pour un curb stomp à ce moment-là. Hein, il est en position de gagner. Mais il est contré en spirit bomb, l'énorme bombe de Keith Lee. Sauf que Randy Orton était en train de ramper à l'extérieur. Il arrive RKO sur Keith Lee. Mais étonnamment, il tente le pin sur Seth Rollins et bien lui en prend puisque Randy Orton remporte ce match et devient donc officiellement à nouveau challenger au titre de Drew McIntyre, au titre mondial à Clash of Champions. Alors on pourrait dire tout ça pour ça, hein, finalement on retrouve le challenger qu'on attendait. Est-ce que c'était si attendu que ça? Moi j'étais pas convaincu de cette issue, mais finalement on retombe un peu sur nos pieds. Qu'est-ce que t'en penses?
J'étais pas super convaincu non plus. Donc, ouais. J'aurais limite mis une petite pièce sur la victoire de Seth Rollins. Mm-hmm. Donc, pour le coup, j'ai été un peu surpris par le finish. Après, je suis un petit peu quand même dubitatif sur le fait de rebalancer Randy Orton dans les pattes de Drew McIntyre. Mais moi, j'espère bien que l'Écossais, il va enfoncer le clou, quoi, à Clash of Champions, quoi, et que là, ça va vraiment se terminer avec un Claymore et non pas comme ça, c'est avec le backslide de la dernière fois. Écoute, le match était pas mal, 11 minutes.
Court.
C'était pas trop mal. C'était pas trop mal pour un number one contender chip, voilà, en main event de Raw. Bah là, je trouve que pour le coup, tu vois, il y avait un effort. Il y avait un line-up quand même qui était vraiment intéressant. Pour moi, il y avait une incertitude dans ce match. Donc, c'était pas évident que Randy Orton allait gagner. Alors, effectivement, je pense que ça va beaucoup couiner du fait que Randy Orton est de nouveau un title shot. Je pense que ça plaira pas à tout le monde, ça. Mais en même temps, on aurait pu dire la même chose de Seth Rollins, et tu pouvais pas balancer Keith Lee face à Drew McIntyre à cause de l'alignement. Et je pense pas que la WWE a l'intention tout de suite maintenant de balancer Keith Lee en heel. Donc ils veulent surfer sur la vague. Après, ça va, ça fait du gros gabarit dans le ring, ça fait un main event assez solide pour Raw, je trouve, quoi, tu vois. Pas trop bagel sur ce truc-là. Je trouve que c'était pas mal ficelé.
Ouais, alors moi j'ai effectivement été très surpris parce que quand j'ai vu qu'il restait 11 minutes pour le main event, je trouvais ça un peu court, surtout vu l'affiche.
Ah ça, par contre, je suis d'accord avec toi, oui, effectivement, un triple menace, merde, pourquoi encore, alors ça c'est le truc à SmackDown Hero, hein, pourquoi nous faire des matchs de 10-11 minutes là, hein.
Et moi je suis vraiment surpris, en fait, je me suis dit, vu ce qui s'était passé avant, je me suis dit, on va réavoir Retribution, quoi. J'étais vraiment, je suis étonné parce que j'étais persuadé qu'on n'aurait pas de catch, en fait, qu'on aurait un passage à tabac général et que ça décalerait cette affiche à la semaine suivante. Au final, non, pas du tout. Hein. Retribution, à nouveau, n'a pas vraiment marqué Raw, en fait, hein, parce qu'ils sont arrivés sur un match vraiment de seconde zone, si on peut dire.
Du coup, j'avais une petite question pour toi, parce que ça te paraît pas... Le fait que Randy Orton remporte ce match-là, quand même, il est nommé number one contender un mois avant le prochain pay-per-view qui se passe le 27 septembre, si je me trompe pas.
Si, c'est ça.
C'est fou, ça, hein, qu'il se fasse... C'est-à-dire qu'il va y avoir un mois de booking de weekly pour réactiver une rivalité entre Orton et Drew McIntyre. Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir se raconter de plus que ce qu'ils se sont déjà tout raconté?
Moi, c'est un gros problème qui arrive souvent à la WWE, je trouve. Je ne comprendrai jamais, quand les pay-per-view comme ça sont espacés d'un mois, pourquoi le lendemain d'un pay-per-view, ils veulent le challenger du pay-per-view suivant. Pour moi, ce triple threat, il aurait été super bien pour nous vendre l'Euro de la semaine prochaine. Franchement, il donnait 3 minutes de plus à chacun des triple threats, là. Et on avait un gros match avec Ziggler, un gros match avec Dominik, un gros match, on aurait fait durer un petit peu plus Owen Sorton. Bon, au final, d'ailleurs, le vainqueur de ce soir, c'est logique, hein, c'est celui qui a le moins transpiré dans son premier match de la soirée, parce que Orton, il est arrivé, il avait juste claqué un RKO et il était chaud, alors que Rollins et Keith Lee avaient un petit peu plus douillé. Mais ouais, moi ça m'étonne, surtout que on nous vend Drew comme blessé, on nous vend Drew comme même pas sûr d'être là dans un mois, comme fracture de la tête ou je sais pas quoi. Donc, est-ce que Kifli va servir à ça, va tenir la feud entre temps en mode moi je défends mon pote et tout. C'est assez étonnant, c'est assez étonnant. Je suis pas tout à fait contre le fait que Randy Orton soit à nouveau challenger, ça me paraît tout à fait logique vu le match de SummerSlam. J'étais même étonné parce que c'est vrai que souvent en septembre, octobre, mais ça sera peut-être pour octobre, alors il y a Hell in a Cell qui est dans les parages et j'aurais bien vu cette feud se conclure dans une cage. Hein. J'aimerais bien voir Drew McIntyre dans un Hell in a Cell quand même. Alors je sais pas s'il aura lieu cette année d'ailleurs sans public, ça sera peut-être. Ouais, il n'y a pas de raison après tout. Hein. Je sais pas. Ah, il y a peut-être des questions.
Il n'y a pas de raison. Non, je pense pas.
Il n'y a pas de raison. En tout cas, en soi, je suis pas contre. J'ai même dit sur le Discord, et certains n'étaient pas d'accord avec moi, que limite ce Randy Orton show comme la braise, limite, je pourrais le voir ravir le titre à Drew, même si ça me fait mal parce que Drew fait un très beau règne, mais un règne, ça a une fin, et je me dis que bon, bah, ça peut être. Lui ou jamais, enfin je sais pas trop qui derrière pourra affronter Drew McIntyre et le battre, mais bon, ben, ça on n'y est pas encore. Mais grosse feud en tout cas, j'ai bien aimé le main event quand même. Si tu vois, j'étais tellement sûr qu'on n'aurait pas de match, qu'on aurait Retribution ou quoi, que finalement ben, on a eu 11 minutes d'une sorte de sprint où tout le monde tente ses finishers très vite et c'était pas mal du tout. Moi, je suis très impressionné par Kifli, qui est quand même effectivement, je pense, un main eventer de WWE naturel. Là, il a un physique, mais il a un acting, je trouve, visuellement. Là, je sais pas, et sa tête qu'il fait là, quand il fronce les sourcils et tout, c'est un bonhomme, quoi. On entend dire que Vince McMahon veut le pusher jusqu'à la lune, là, veut lui mettre une fusée au cul. Bon, les fusées au cul, ça marche pas toujours. Hein. On se souvient de Finn Balor, mais
On se souvient de Drew McIntyre.
On se souvient de Drew McIntyre, mais bon, ils ont quand même un gros bébé dans les mains là, quand même. Hein. Je pense qu'ils peuvent difficilement rater.
Ouais. Là, ils ont un personnage.
Ouais. Ouais. Après, pareil, Aleister Black, on en attendait beaucoup. Ça dépend, on sait pas trop, mais pas mécontent de voir Kifli au milieu de tout ça. Et j'ai bien aimé le match aussi, comme toi. Donc, à voir pour la suite comment, comme tu dis, ils vont nous écrire 4 semaines de feud. Ça, c'est un peu plus intriguant, ouais.
Avec une feud qui a déjà eu lieu.
Ouais, en plus, avec un Randy Orton qui, il faut dire ce qui est, se répète un petit peu quand même, depuis quelques années.
C'est rien de le dire.
Bon, allez, écoute, mon ami Chris, nous avons fini ce Monday Night Raw, nous avons un challenger pour le titre mondial. Pour le reste, c'est tout, hein. Voilà, ça suffit, c'est déjà pas mal, mais bon, voilà, Clash of Champions, l'affiche n'est pas encore plus construite que ça. Retribution continue de foutre le bazar, on ne sait pas qui affrontera qui pour les différentes ceintures, on a une équipe qui s'est séparée, on a quand même Ruby Riott et Liv Morgan qui ont un title shot, il faut le noter. Qu'est-ce que tu as pensé de ce show? C'est le mot de la fin, je t'écoute, ton top, ton flop et ta note, Chris.
Pfiouf, et ben écoute, finalement c'était bizarre hein, ce Raw, parce que justement avec toute cette annonce au début, on nous a annoncé les 3 single match avec le main event, etc., et je m'attendais à beaucoup de densité. La densité, je me suis un peu assis dessus parce que franchement, les matchs ont été quasiment tous super courts. Après l'opener et le main event qui font effectivement 11 minutes, sinon, voilà. Il y a eu pour moi un très bon match entre les Street Profits et Angel Garza, mais qui a été gâché par Retribution et Andrade. Tout ça, c'est fou. Là, 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 là. Il y a pas de trucs, si tu veux, qui m'ont fait hurler, on va dire, mais en même temps, pas de truc où je me suis dit, oh là là. Alors, je vais donner mon flop, je vais le donner. Mon flop, je vais le donner à la défaite du Hurt Business dans le Six-Man Tag Team Match, parce que ça fait partie des trucs que j'aurais pas compris dans la soirée, quoi. C'est-à-dire que Bobby Lashley vient de gagner le titre US, ils sont montrés forts, les mecs, c'est les patrons de Raw Underground. Et au final, on leur fait perdre un match random de six tag team là, avec des Viking Raiders qui naviguent, comme on l'a dit tout à l'heure. Et du coup, ça m'a... Ouais, dans un match hyper court en plus, dans un truc qui aurait pu être intéressant et qui ne l'a pas été. J'aurais pu tirer sur les filles hein, aussi, hein, tirer sur l'ambulance des filles, mais je ne vais pas le faire. Allez, je l'évite ce soir. Donc voilà, je vais donner ça comme flop, mais voilà, il y aurait eu plusieurs flops possibles, mon cher peuple de catch-up. Et puis mon top, je vais quand même le donner au main event, quoi. Je vais quand même le donner au main event. Par grande passion, mais pour moi, c'est parce que c'est le plus gros, finalement, événement qui se passe de la soirée. nous a déterminé le number one contender pour le titre suprême. Il y avait un beau line-up. Il y a eu un match de 9 minutes 5, de 11 minutes qui aurait mérité 4-5 minutes de plus. Avec en plus une petite surprise. Donc moi, ça, j'aime bien quand il y a une certaine incertitude sur un match. Mm-hmm. Pour moi, en tout cas, c'était le cas. Peut-être que pour d'autres, ce n'était pas du tout le cas. Mais en tout cas, pour moi, ça l'était. Donc à partir du moment où il y avait cette incertitude, j'aimais bien. J'ai été relativement surpris par la victoire d'Orton. Voilà, ça pose toutes les questions qu'on vient de se poser avec mon bon Raphaël hier, là. Mais n'empêche que dans l'absolu, j'ai trouvé que c'était pas mal de finir le show de cette manière-là, après les trois single matchs qu'on avait eu droit, qui étaient déjà bien courts. Donc heureusement, ça a un petit peu rattrapé la chose. Donc c'est un top, mais pas un top. Voilà, je suis pas foufou, quoi. Et ma note va être faiblarde, hein, parce que voilà, pour moi, pas assez de catch. Hein, pour moi, avoir 5-6 matchs de moins de 3 minutes, c'est pas possible, quoi. Donc moi, je vais mettre un 2-25. Allez, un 2-25.
Ok, au passage, on salue Papy, qui n'a pas pu être là ce soir. Papy, lui, qui est furieux, hein, honnêtement.
Papy, pas content, ouais.
Papy, pas content. Donc, pour résumer, Papy nous a mis quand même un petit 1,75 pour ce show. Aucun top. Retribution en flop, il nous dit qu'il a, et sur le Discord, n'hésitez pas à aller voir le Discord aussi, il nous dit qu'il en a la claque de Retribution qui vient tous les 36 du mois s'attaquer à de la low card. Papy considère qu'il n'y a pas une feud qui lui a plu dans son traitement du soir, donc Mickey James en challengeuse, ce genre de choses, lui pour lui. Je cite Papy sur le Discord, si j'étais à Orlando hier soir, je rentrais dans le bureau du booker et je le giflais. Il est violent, Papy.
Oh, il est dur le papy. Et alors pour peu qu'il y ait Nakamura qui passe pas loin à ce moment-là, il en met une double.
Eh ben écoute, moi je vais être moins sévère que papy parce que...
Ah, j'ai été moins sévère que papy aussi.
Ouais, non, on a été moins sévère. Niveau FUD, oui, effectivement, il y a du gros flop dans certains trucs. Moi j'ai bien aimé les deux matchs avec Kifli déjà. J'ai bien aimé Dominique. Donc bon, déjà ça sauve un show, on va dire. J'ai bien aimé, comme tu l'as dit, le Tornado qui était quand même sympa. Après les fins de match, les machins, tout ça, bon, il y a du bon, il y a du moins bon, mais j'ai trouvé qu'il y avait des trucs cool qui m'ont fait que j'ai bien aimé. Mon top, moi je vais quand même comme toi le donner au main event parce que j'ai... Je vais le donner à Kifli pour ce début de match dans la soirée. Allez, on va cibler un peu Kifli qui fait grosse sensation. Voilà, hein, je pense qu'on est sur un très gros produit.
Mais bon, qui perd quand même à son deuxième row, quoi.
Qui perd, c'est vrai, mais bon, en même temps, j'aime pas les fusées au cul, genre les Finn Balor qui gagnent 3 matchs d'affilée et qui est déjà Universal Champion. J'ai beaucoup de mal avec les comment ils appellent ça, les streaks là, quand il y a quelqu'un, que ce soit Asuka, que ce soit qui c'est qu'il y a eu d'autres qui a eu des streaks. Bon, il y en a eu plein, il y a eu Ryback.
Attends, t'as Biggie en ce moment a une streak à SmackDown, hein.
Ouais, mais je trouve qu'il c'est quand un nouveau, en fait, quand un rookie débute par une streak, ils savent pas comment finir ça. J'aime bien qu'il y ait une défaite très rapide, c'est ce qu'avait eu AJ Styles d'ailleurs dans son temps, qui évite un peu cette pression du « qui va gagner, qui va briser la streak ?» Donc non, Kifli me paraît bien chaud. Mon flop pour moi, il y a eu plein de low cards, mais je vais quand même le mettre au fil, je vais quand même le mettre à cette stipulation de fin de... Voilà, on a brisé une tag team qui existe depuis des années et qui est passée par NXT partout. Alors, elles sont pas brillantes in-ring, je dis pas du tout ça, mais... voilà quoi, c'est un peu bizarre, hein. C'est comme si on avait eu la même stipu pour, je sais pas moi, les Lucha House Party ou quelque chose d'un peu comme ça, hein, des low-carders mais qu'on voit depuis tout le temps, un mid-card en plus avec des gagnantes en face qui n'ont aucun intérêt, donc voilà, un petit peu triste, au revoir Iconics, j'espère qu'on vous reverra peut-être autrement, mais c'était un peu triste, et moi je vais sauver la moyenne, je vais dire 2,5. Parce qu'il y a eu quand même du bon Kifli, du Dolph Ziggler, Dominique qui régale, il y a eu un petit peu de catch, Montez Ford est toujours chaud comme la braise, voilà. Il y a eu un petit peu de trucs, mais la moyenne, on va dire la moyenne, et en espérant mieux pour la prochaine fois. Et bien voilà, j'espère, cher peuple de catch-up, que ça vous a plu d'écouter cette review avec nous. Voyez qu'on... On n'est pas tous d'accord, alors n'hésitez pas à nous laisser votre commentaire, votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt team Papy, très énervé par ce show, team Raphaël, plutôt moyen, tonton Chris un petit peu moins, est-ce que...
Entre les deux,
qui se cache derrière Retribution d'après vous? Est-ce que ça vous plaît de les voir surgir, casser des gueules et repartir? Est-ce qu'ils vous ennuient maintenant? Est-ce que vous êtes content que Randy Orton soit toujours là ou vous préféreriez voir Keith Lee? Est-ce que vous aimez l'Underground? Pour tout ça, vous nous écoutez sur PodCloud, sur iTunes, sur Spotify, sur YouTube pour une version vidéo. N'hésitez pas à nous laisser vos avis, vos commentaires, à liker, à vous abonner, à partager, à podcaster, à nous écouter dans les transports. Pour interagir avec nous, il y a le Facebook, le Twitter, l'Instagram, Catchup CDC et donc, j'en ai fait la promo, le Discord. Voilà, c'est fini pour la promo collective, on est toujours là, il y a Papy, il y a Tonton Chris, il y a Ringside, il y a les autres amis qui sont un petit peu moins présents mais qui travaillent dans l'ombre, on pense à eux, ils nous font les montages, ils nous bidouillent, l'ami IRM, le patron, l'ami Giscal et tous les autres.
Bravo la technique, bravo les billetteurs, bravo les monteurs.
Voilà. Bravo à Tonton Chris qui continue à faire des reportages. Je sais que tu fais du You Talk Too Much aussi.
Avec des spécialistes de catch.
Donc n'hésitez pas à écouter ça. Et puis on reste sur les ondes. SmackDown, Clash of Champions, tout est sur la route. Donc eh bien, on se dit à très bientôt. Bonne semaine pleine de catch. Bonne rentrée. Merci Tonton Chris d'avoir été là pour cette analyse.
Merci à toi Raphaël Hier pour cet hosting de qualité.
Merci.
La qualité au-delà de la quantité.
Yes, c'est ça, c'est nous, c'est Catchup. À très bientôt, bonne semaine à tous. Et puis, de retour sur Catchup pour parler du catch et du catch. Ciao tout.
Yeah! Salut, papa de Catchup!
T'as remarqué que si on change toutes les lettres à Retribution, ça fait Enzo Amore.